RMC.
C'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort. C'est-à-dire le bleu absolu, quoi. Le bleu du jour et de la nuit.
Le Super Football Show.
Ah, ce petit compliment pour m'inciter à répondre. Allez, au-delà, tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, hein?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Gilbert Brébois.
Tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur RMCSport.fr, évidemment, c'est le dernier after avant la Coupe du Monde, et ouais, ça démarre demain. On va se régaler pendant un mois sur RMC, on va vivre tous les matchs, les 64 sur RMC avec une Dream Team de rêve, bien sûr, prise d'antenne demain à 13h, ça va être énorme. La radio de la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a même pas photo. Hein, on est les seuls à faire tous les matchs. Donc c'est réglé avec une Dream Team que je vais vous détailler un peu plus tard. Qui sera emmenée par Jérôme Rotten, évidemment.
Toujours là, présent, fidèle au poste. Tout le monde est derrière moi. Ils sont prêts, c'est bon.
Bah, cela dit, il y a quelques mecs qui ont joué, hier soir. Ils sont pas bien là. Hein. Il faut qu'ils récupèrent. Il y a eu quelques claquages, déchirures.
Ouais. Il y a eu des. Bon, bonsoir à tous déjà.
La 98, la Ligue de 98.
Bonsoir à tous. Oui.
Ah ouais, il y a des mecs, mais on le savait. Hein,
Manu Petit, 15 minutes sur le terrain, à dégager. Franck Club, 25 minutes, à dégager. Christophe Dugarry, 40 minutes, à dégager. Il y a que Lionel Charbonnier qui a tenu le coup.
Il a même stoppé un ballon.
Bah ouais, il est bon.
Et moi, hier après-midi.
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu stopper un ballon, c'est pour ça que j'étais surpris, moi, hier.
Daniel Riolo est là, Daniel, bonsoir.
Salut les amis. Moi, hier après-midi, tournoi de tennis, un set, claquage à la cuisse. Ah. Alors que j'étais en pleine forme.
Ah, mais écoute,
en pleine forme.
On était tous dans le dur, alors en fait, on prépare tellement la Coupe du Monde que j'ai fait la même aussi lundi soir, donc.
Messieurs. Alors, outre ces considérations
physiques,
musculaires, il y aura des avis tranchés ce soir. Il y aura notamment un avis tranché de Fred Hermel, que je vous demande d'accueillir tout de suite. Fredo, bonsoir.
Moi, j'ai une entorse de la langue.
Ah,
en laticos.
On va pas te demander.
Je parle beaucoup parce que mais non, parce qu'avec l'actualité en Espagne, ça n'arrête jamais. J'arrête pas de parler.
Ah oui. Aujourd'hui, grosse journée pour Fred.
Ah bah dis donc. Et demain.
Tu t'y attendais pas à celle-là.
Ah bah non.
Ah celle-là, elle est tombée comme ça.
Ah bah non. Voilà, ça fait 15 jours que là. L'Espagne réserve quand même beaucoup de surprises entre le Real et la sélection espagnole.
Alors, Fred a un avis tranché sur le bordel en sélection espagnole, ce sera dans quelques instants. Daniel, lui, va parler du fair play financier. Et Jérôme, lui, il se garde pour la Coupe du Monde, donc ce soir, il n'avait pas d'avis. Mais
il a bien raison pour les chapeaux, pour les
chapeaux. On est pressé, c'est le clou du spectacle.
Ben oui, c'est
quand même.
Ça. Donc allez avant vite sur vos avis tranchés. Hein,
avant la Coupe du Monde, c'était
donc,
ce qu'on attendait.
Donc les avis tranchés dans la première heure, les infos du jour et les chapeaux dans la deuxième heure, donc les célèbres chapeaux. Vous allez voir qu'on a préparé plein de surprises. Ça va être sympa. Ce sera entre 23h et minuit tout à l'heure. 32-16 bien sûr pour venir débattre avec nous. Le hashtag RMC Live est là également sur Twitter, Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport. Vous connaissez le principe, vous téléchargez l'appli, vous cliquez sur RMC en direct, puis ensuite sur Direct Studio, vous pouvez nous envoyer vos messages. Et puis il y a du basket ce soir, la finale de Pro A, le premier match entre Monaco et Le Mans. Mélanie Ferreira suit le match. Mélanie, bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est la pause, le quatrième carton va commencer dans quelques minutes et c'est pour l'instant Monaco qui mène toujours 60 à 54 contre Le Mans pour ce premier match de finale de la Jeep Elite.
Merci, à tout à l'heure. Attention messieurs dames, le jingle Hermel va retentir. Mais avant cela, je vous rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin, le président de la Fédé espagnole était attendu au congrès de la FIFA. Il y avait quand même un truc assez important, le vote pour 2026. Lui, le mec, il est pas venu. Il s'est barré pour virer son coach dans le sud de la Russie, donc où sont basés les Espagnols,
pu virer par
Krasnodar.
Téléphone.
Ouais, quand même.
Putain, voilà, il fallait être présent.
Par SMS.
Ah, il pouvait pas.
Là, c'est viré.
Donc du coup, surtout que a priori l'Espagne aurait voté pour le Maroc, je crois, Fred. Donc c'était une bon.
Oui, sûrement.
Vote-moi
bon,
pour
ça
n'aurait
pas changé grand-chose, mais moi.
Ça aurait pas changé grand-chose. Bon, et donc le président de la Fédé est arrivé et il a viré Lopetegui. Et donc Hierro est le nouveau sélectionneur. Alors Hierro, il était directeur sportif, hein, une sorte de DTN, quoi. Enfin pour faire, nous on n'a pas de directeur sportif en France.
Une sorte d'Oliver Bierhoff.
Une sorte d'Oliver Bierhoff, exactement. Mm-hmm. Bon, Hierro, c'est quand même pas n'importe qui, évidemment. Hein, joueur de légende en Espagne et au Real. Donc voilà un peu l'enchaînement des faits aujourd'hui, pour schématiser. Juste un mot sur ce président de Fédé, Fred, parce que c'est un président de Fédé assez jeune, qui dénote un peu dans le paysage, je trouve.
Ben oui, en fait, c'était l'ancien, c'est un ancien joueur, et c'était l'ancien président de l'association des footballeurs espagnols, c'est-à-dire du syndicat des joueurs espagnols, en fait, qui était
un peu comme si chez nous, Carsten Deutsch devenait président de la Fédé.
Voilà, en gros, ouais. Et il a été élu il y a 3 semaines.
Hein. Ça, on l'imagine pas, ça.
Il a été élu il y a 3 semaines, donc c'est l'homme du renouveau. C'est lui qui a fait tomber, enfin qui le renouveau après le système Villard et des vieux bedonnants dont beaucoup dont certains sont en prison, qui dirigeaient la fédération depuis 3 décennies, quoi. Donc c'était bien parti, mais bon, finalement non.
Alors, tout ça, bien sûr, t'a inspiré un avis, comme d'habitude, très tranché. Jingle Herbel.
La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon.
Voilà, le karaoké l'ensoi de Frédéric. Alors, on t'écoute.
Ben, je vais vous parler de... Ben, je vais vous annoncer quelque chose, c'est-à-dire que mon avis tranché ce soir, c'est de vous dire que, oui, certes, Fernando Hierro a été nommé à la place de Lopetegui, mais le véritable coach maintenant, patron de la sélection espagnole, c'est pas Hierro, c'est Sergio Ramos. Simplement, pour vous dire que on sait très bien ce qui va se passer, et les premières déclarations très intelligentes de Hierro ont été... je ne vais pas toucher en 2 jours ce qui a été fait pendant 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Ramos et les cadres vont être en autogestion, que Hierro va être l'image, que Hierro, c'est à peu près ce qu'il faut faire, mais qu'il va pas inventer, il va rien changer. Et que si l'Espagne fait quelque chose, pendant cette Coupe du Monde, ce qui va être quand même très compliqué vu l'ambiance et vu tout ce qui s'est passé, depuis hier, bon, c'est parce que les joueurs auront décidé de se réunir, auront décidé de marcher tous ensemble et auront décidé d'y aller. Et ça va se faire parce qu'il y a un leader comme Ramos. Alors je dis Ramos parce qu'il est le symbole des cadres du vestiaire. Donc Hierro est un personnage qui est là, qui va être celui qui va parler en conférence de presse, mais son rôle va être assez limité. Ce sont des joueurs, à commencer par Ramos, qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions, qui savent très bien se manager tout seul. Donc, à travers ce personnage, c'est l'autogestion maintenant qui va être au centre de la sélection espagnole.
Alors, après, voilà, avant l'avis de Daniel,
c'est même plus qu'un avis tranché. C'est un constat quasiment. Donc,
avant l'avis de Daniel et de Jérôme là-dessus, ça peut évidemment foutre le bordel en sélection espagnole, mais ça peut aussi créer une espèce de, je sais pas, une sorte de d'élan. Tu vois, les mecs qui se resserrent entre eux et qui se disent on va y arriver. Tu vois, je sais pas, la France en 2006,
oui,
regarde.
Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais aussi, mais ça, c'est possible quand il y a vraiment des vrais leaders. Et là, il y en a dans cette sélection. Je veux dire, quand Ramos parle, on l'écoute. Quand Piqué parle, on l'écoute. Quand Iniesta parle pas très haut. Enfin, quand il prend le ballon, on le regarde. On l'écoute. Non. Quand Carvajal, qui a un rôle très important au Real, hein, il est tout petit comme ça, mais il a un gros caractère. C'est-à-dire qu'il y a des types qui peuvent mener à bien cette histoire. Voilà. Je pense que ça va être très compliqué, hein, ça. Je veux pas dire aujourd'hui que l'Espagne est favori pour gagner la Coupe du Monde, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est plus le même scénario qu'il y a deux jours. Mais je pense qu'il y a des mecs qui sont capables de faire gagner l'Espagne. Oui, c'est possible. C'est encore possible.
Bon, qui aurait prédit que Zidane ferait défaillir la sélection espagnole?
Personne. Non, mais le constat de Fred semble évident. Effectivement, Hierro l'a dit de façon très claire, il va pas démonter en 2 jours ce qui a été fait en 2 ans. Donc, il était de toute façon assez proche de cette sélection, Fred. Hierro, oui, dans son rôle, il a vu comment tout ça se passait. Je pense que les hiérarchies du vestiaire, il les connaît. Je pense que ce que faisait Lopetegui sur le terrain, il le voyait.
Le 11, en gros, il a un doute, voilà, sur le numéro 9, hein, c'est tout. Hein. Sinon, 10 des 11, on le sait. Hein,
donc, voilà, donc il va accompagner cette équipe. S'il est intelligent, il a accompagnera bien, il communiquera au nom de cette équipe, et oui, avant un match un peu chaud, sa voix et donc son sens du management pourra être mine de rien important à ce moment-là, ça quand même, parce que j'imagine qu'il ne va pas s'empêcher de parler avant un match dans le vestiaire.
Ah ben,
le fait que le gars ne tombe pas de l'arbre et ne vienne pas de n'importe où, mais était déjà au plus près de la sélection, bon ben ça c'est le point positif. Donc sur ce constat, j'ai aucun problème. Après, sur le reste de l'affaire, bon, je sais pas, je crois qu'en Espagne Espagne, ça n'a pas été super bien vécu dans le sens où la majorité des gens doit penser aujourd'hui, corrige-moi si je me trompe, mais je ne le crois pas, doit penser que bah, le président pouvait aussi ne pas piquer sa colère et s'énerver et aurait pu juste ranger son ego pendant un mois et dire bon ok Roulaine, ce que t'as fait c'est pas bien ou j'aurais aimé être prévenu ou je ne sais quoi, parce qu'en tant que président il aurait pu lui dire ce qu'il avait envie.
On peut comprendre sa réaction quand
oui,
même.
Oui, mais bien sûr, mais je te dis que je la comprends.
Il y a surtout été vexé de pas être pris dans la confidence.
Exactement. C'est surtout ça en fait. Exactement. En fait, on peut comprendre la personne, mais on a du mal à comprendre le président.
Non, mais une fois que tu comprends tous les problèmes effectivement d'ego, de je suis pas prévenu, je suis prévenu, si cela, tu peux aussi t'élever un petit peu. Même Lopetegui est pas méga élégant dans l'histoire. Si je pense que les discussions, elles datent pas d'hier avec le Real.
Simple, vendredi. C'est-à-dire que c'est vendredi dernier.
Vendredi dernier, je veux dire, à partir du moment où, dans un cas semblable, si c'est vendredi à 14h, vendredi à 14h30, tu le dis à ton président de Fédé, ça me paraît logique.
On peut même dire que le président du Real peut appeler le président de la Fédé.
Exactement.
Donc, surtout qu'aujourd'hui, simplement pour donner le contexte, c'est que c'est la nouvelle génération. Avant, c'était la guerre, ça aurait été impossible qu'ils discutent. Ouais. Mais là, c'est un nouveau que le Real a félicité.
Ça manque de classe un peu partout. Maintenant, une fois... Si le président de la Fédé il constate que ça a manqué de classe un peu partout, tu peux aussi, je le conçois, c'est une forme d'élégance, dire ok, vous avez tous manqué de classe, mais moi je vais montrer que je suis plus intelligent que vous. Lopetegui, tu vas me faire cette Coupe du Monde, t'essayes d'aller le plus loin possible, et puis après tu te casseras, parce que là sinon ça va être un peu le bordel. Bon, lui il a décidé d'agir autrement, et sa réaction, elle est également compréhensible. La colère, le mec, vous m'avez pas prévenu, bon ben maintenant tu dégages et je mets quelqu'un d'autre à ta place. Toutes les situations et les réactions se comprennent dans cette histoire-là, et quant à savoir si ce bordel peut avoir de l'influence négative ou positive, franchement j'en sais rien. L'Italie 82 et 2006, c'est deux exemples qui montrent que malgré une adversité un peu bizarre, tu peux faire des choses importantes. En France, on est un peu plus dans une culture de la chouine, donc on te ressort sans arrêt l'excuse de 2004. Hey, Santini, il avait dit avant qu'il partirait à Tottenham. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'évidemment, pour porter le maillot bleu et pour jouer en équipe de France, il fallait savoir
2006,
que le mec continuait.
Les mecs te disent tous, en gros, vraiment, on faisait sans sélectionneur.
Après le premier tour, on a pris les choses en main. Donc moi, je comprends pas trop. À partir du moment où t'es en équipe nationale, qu'il y a un truc ou quoi, ou à droite, à gauche, qui te casse les pieds, ou les burnes, t'en fous. Tu joues, t'es en équipe nationale. C'est une Coupe du Monde, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de savoir que le sélectionneur va rester ou pas rester?
C'est la dernière Coupe du Monde.
Mais oui, non, mais qu'est-ce que ça peut faire de savoir que tu joues pour un tel tu joues pour le maillot, tu joues une Coupe du Monde? C'est unique dans une vie.
Non, mais c'est sur la vie de Fred. Déjà, c'est quand même incroyable de virer son sélectionneur comme ça à 4 jours, à deux jours de la Coupe du Monde.
Toi, tu penses que le président de la Fédé aurait pu finis la Coupe du Monde.
Mais très clairement,
ce que tu m'as fait à l'envers, j'apprécie pas. Mais là, maintenant, je vais pas quand même. Tu vois, enfin, il aurait.
Daniel, qu'est-ce que t'aurais fait toi en tant que manager?
Franchement, je sais pas.
Non, mais après moi.
Non, mais essayons.
Moi, je pense que j'aurais consulté autour de moi. J'aurais effectivement demandé à des mecs genre Ramos.
Ramos ce matin.
Mais les joueurs voulaient que le mec reste.
Ils voulaient absolument qu'il reste.
Ils voulaient que Dybala reste. Donc moi, j'aurais dit écoute.
Dybala.
Lopetegui.
J'ai appelé quand?
Dybala.
Ah oui,
parce qu'en fait, parce que j'ai la liste sous les yeux. Ah mais c'est hallucinant parce que j'ai la liste et le nom que j'ai sous les yeux dans mes chapeaux. C'est Dybala, je suis désolé. Bon, bref. Moi, j'aurais consulté le joueur. Comme tu dis, les joueurs, ils voulaient tout ce qu'il reste. J'ai dit, ok, je vais prendre sur moi. Je vais vous montrer que moi, je suis classe. Je tiens à vous le dire, vous êtes comportés comme des petites garces, vous tous. J'aurais dit ça, mais j'aurais gardé.
Et j'aurais surtout montré le doigt le Real en disant, vous, monsieur Florentino Pérez, vous avez souillé le maillot de la sélection nationale.
Vous n'êtes pas classe.
Et c'est pas beau.
Voilà. Non, mais j'aurais pas viré Lopetegui comme ça. Parce que toi, t'aurais fait quoi en tant que manager?
Moi, je l'aurais viré. Mais je l'aurais viré parce que en effet, ça manque de classe. Et je pense que Fred le disait. C'est
manque de classe, ça t'empêche pas d'être classe toi-même.
Non,
tu peux.
C'est pas une question d'être classe, Daniel. C'est que pour gagner une grande compétition, il faut que tout le monde arrive à tirer dans le même sens. Il y a les joueurs qui c'est le plus important parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Après, t'as le staff. Et après, t'as aussi les gens au-dessus. Et je crois que si tu sens en tant que joueur que il y a une mauvaise ambiance entre le président, l'entraîneur, le staff, le ceci, parce qu'il est rancunier, parce qu'il s'est passé ça, cela, c'est jamais bon signe dans tous les cas. Sauf si en effet, les résultats masquent tout ça et que tu arrives à enchaîner les victoires. Et que dans ces cas-là, ça appartient aux joueurs. Et c'est pour ça que des fois, l'autogestion des joueurs, ça marche. Mais des fois ça ne marche pas, et le plus souvent ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que t'as besoin aussi de repères, t'as besoin, tu le disais, c'est sûr que sur des matchs où ça va être plus simple pour l'Espagne, où ils vont mettre leur jeu en place, il y aura pas de souci. Les joueurs n'ont pas besoin d'entendre.
Le premier match contre le Portugal, hein, ça peut partir en vrille très vite. Hein.
Le premier match est très compliqué.
Ah oui. Et puis les changements, tu fais comment? C'est ça, parce que le 11 tu le connais. Mais les changements, le côté tactique, parce que Hierro il est super, mais enfin il a entraîné un an en deuxième division.
Non, mais c'est un vrai problème, parce que là il est obligé d'agir vite. Donc c'est une personne qui était là au sein de la sélection, qui connaît par cœur le groupe, qui connaît les joueurs, qui connaît ceci, cela. Donc il a mis ça parce que il se dit, Hierro, il va s'appuyer sur ce qu'a fait Lopetegui pendant 2 ans. Ah très bien, ça a super bien fonctionné de toute façon. C'est pour ça. Ouais. Donc il y a juste aujourd'hui, et Fred le disait, parce que moi j'ai regardé les derniers matchs de préparation, on va pas remonter plus loin, mais les derniers matchs de préparation, même si attention, il faut toujours se méfier de l'état de forme des mecs, parce que physiquement ils ont beaucoup bossé, pareil, comme l'équipe de France ou les autres nations, donc ça va monter en puissance sans aucun doute. Mais l'instinct de tueur, pour l'instant ils l'ont un petit peu perdu, ils l'ont pas. Donc ça, il faut corriger ce poste-là devant. Donc ça sera à Hierro de prendre ses responsabilités et de dire, c'est Thiago Costa, c'est Aspas, c'est un autre qui va jouer là devant pour nous faire gagner les matchs. Mais sinon, à côté de ça, quand t'es joueur, et là je rejoins Daniel, moi j'ai connu, j'y étais en 2004 quand Santini il te l'annonce,
il avait fait les choses mieux que ça, hein, Santini, non, mais, parce qu'il l'avait annoncé bien avant.
De toute façon, d'un moment, ça peut pas être une excuse sur le fait de pas avoir de bons résultats.
Je suis content que tu sois d'accord avec moi, je pensais que tu avais pas le lettre là-dessus.
Ah ben non, mais pourquoi?
Jérôme, ce soir, je t'aime.
Mais franchement, le sélectionneur, il annonce son départ avant. Écoute, il reste. Lui, il a qu'une envie, c'est de gagner la compétition. Dans tous les cas, moi, Jacques Santini, avec ses limites, hein, parce qu'il avait des limites, ça n'a pas été le meilleur sélectionneur de l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'il a tout mis en œuvre. Il a mis en place. Il a donné de sa personne pour que l'équipe de France aille au bout de cette compétition. Après, ça appartient aux joueurs. Et là, juste pour faire le rapprochement avec l'Espagne, si les joueurs leaders dont Fred parlait, si les joueurs leaders arrivent à avoir cette culture de qu'ils ont toujours eu pendant la carrière, qu'ils ont un petit peu perdu sur les dernières années en sélection, je parle, s'ils arrivent à se remettre dans le mode on veut tout gagner, on veut tout écraser et on est à notre meilleur niveau, je vois pas de problème dans la sélection espagnole, parce que des joueurs leaders, il y en a.
Avant d'accueillir Julien, un dernier mot quand même, Fred. C'est aussi pour ce jeune président de Fédé une façon d'asseoir son autorité. Moi, exactement. Je viens d'arriver, vous n'allez pas me la faire à l'envers, et là, je montre qui je suis, quoi.
C'est peut-être
ça, ce qu'il a fait, quoi.
Ah, complètement. Mais parfois, l'autorité, c'est de... J'ai du mal à me prononcer. Je pense qu'il aurait dû garder Lopetegui, justement, pour le sportif. Et il aurait montré aussi une grande autorité. Après, le problème. Mais
surtout
qu'il
que si ça foirait, c'était tout pour Lopetegui, hein.
Exactement. Là, on va accuser. Mais le gros problème qu'il a aussi, c'est l'autorité au sein de sa fédération, parce que, alors ils ont corrigé ça, mais hier après-midi, après l'annonce du Real, la fédération, le service de presse de la fédération diffuse un communiqué en disant, nous étions au courant des tractations, il y a une clause libératoire qui va être payée par le Real, etc. Et aujourd'hui, on pose la question au président en disant, mais attends, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous n'étiez pas au courant, mais hier vous communiquez ça, il dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc ça prouve aussi, mais pourquoi? Parce que ça fait 30 ans qu'il y a un système qui est mis en place. Lui, il vient d'arriver et il contrôle pas encore tout, quoi. Donc il avait besoin en plus de montrer l'autorité par rapport à sa propre fédération. Et puis moi, là-dessus, enfin, dans le côté qui peut être important aussi, le fait aujourd'hui à Hierro, on va pas lui poser la question de savoir si Cristiano reste au Real. Là aussi, parce que il y aura pas cette perturbation quotidienne par rapport à l'avenir du Real Madrid, qui aurait été présent tout le temps si Lopetegui avait continué.
Julien est là au 32-16. Salut Julien.
Salut l'équipe.
Bonsoir. Julien.
Julien, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire espagnole là?
T'es d'accord avec Fred? Disons que ça part un petit peu dans tous les sens, quoi, parce que c'est vrai que ce matin, on se réveille à 6h, on voit déjà l'information à 6h du matin qui tombe, on se dit comment la journée va se passer, quoi. À peine à 7h du matin, on apprend qu'à 10h30, il y a une conférence de presse de Lopetegui qui est reportée de 1h. On se demande vraiment comment ça se passe. On savait très bien, on se doutait de quelque chose, quoi. On savait que la journée n'allait pas forcément très bien se passer, quoi.
C'est clair. Mais bon, écoute, Hierro, enfin, pour toi, il fallait virer Lopetegui.
Bah ouais, parce que après, je dis pas oui, il fallait vraiment virer Lopetegui, mais pour moi, dans l'histoire, et tout le monde est fautif. Que ce soit Lopetegui, que ce soit Rubiales, que ce soit Florentino Pérez.
Rubiales, c'est le président de la Fédé. Hein. Ouais.
Voilà. Et que, comment ça s'appelle, Florentino Pérez aussi. Pour moi, il est aussi coupable, parce que les trois auraient été un peu plus intelligents et auraient joué le timing et la montre. Ils auraient pu faire l'annonce que Lopetegui partait au Real une fois l'élimination de l'Espagne ou après victoire. Ah ouais,
non, alors, ça, après, sur ce point, Julien, il y a juste sur ce point, Fred, si tu permets, ouais. Pour le Real et pour ce que représente le Real, qu'un club comme ça attende aussi longtemps avant d'annoncer son entraîneur, c'était pas possible pour ce club. Voilà. Le club avait besoin rapidement quand même, et déjà comme ils avaient été pris de court, avait besoin de dire, attends, le Real c'est une institution dans le monde entier, il y avait trop de gens qui attendaient de savoir qui allait diriger ce club, ils peuvent pas attendre la fin de la Coupe du Monde.
Il va y avoir de vide comme ça.
Tu vas avoir un vide dans l'institution Real. Donc sur ce point-là, Julien, je suis d'accord avec le reste, mais sur ce point-là, ils étaient emmerdés, le Real aussi.
Fred, une toute dernière question. Est-ce qu'en Espagne, on allume le Real sur le thème, ils foutent le bordel, c'est eux les responsables?
Bah oui. Bah, bien sûr, bah oui, la presse catalane, c'est simple, il y a 60% des gens qui aiment le Real, en Espagne, il y a 40% des gens qui détestent le Real. Donc les 40% des gens qui détestent le Real, s'en prennent au Real, bien sûr. Ça fait partie du, okay. Ça fait partie du jeu, hein, ça.
Prenons, on se retrouve tout à l'heure pour les chapeaux.
Oui! Les sombreros.
Les sombreros, exactement.
À tout à l'heure, les amis. Ciao, ciao.
À tout à l'heure. Un petit tour au basket, le point entre le score entre Monaco et Le Mans, Mélanie.
Il reste un peu plus de 3 minutes dans ce quatrième quart-temps. Monaco mène 74 à 70. Voilà, il reste donc un petit peu plus de 3 minutes.
Ok, à tout de suite, c'est le premier match de la finale, bien sûr, du championnat de France. Dans quelques instants, le fair play financier au programme de l'After. Ensuite, les infos du jour et les chapeaux. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Ils sont là, Jérôme Rantaine, Daniel Riolo, messieurs, dames, dans quelques minutes, les chapeaux à 23h, mais avant ça, plein d'actu Coupe du Monde à suivre, et puis quand même une petite actu fair play financier, aujourd'hui, messieurs, puisque c'est tombé, le sort du PSG et de Marseille a été tranché par l'UEFA, ce qui nous vaut la vie de Daniel dans quelques instants. Et ben, figurez-vous qu'il n'y a pas de sanction pour le PSG, alors on s'attendait, on entendait tout, hein, le pire, l'horrible, voilà, et finalement, ben, aucune sanction donc envers le PSG a décidé l'UEFA. Alors apparemment, le cas du PSG a quand même fait débat au sein de l'UEFA sur ce point, mais finalement, on a décidé donc qu'il n'y aurait pas de sanctions après les transferts de Neymar et d'Mbappé. Hein. Donc c'était ça qui avait provoqué la procédure. En revanche, sanction pour l'OM qui a pris une amende et qui reste sous contrôle donc pour la saison prochaine. Ce qui nous vaut l'avis de Daniel Dussoir, jingle Riolo.
Dites-le, 9 fois sur 10, tu t'emmerdes.
T'es buté.
Mais dis-le. À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier. Mais dites-le.
Très bien. Daniel, du coup, ça t'a inspiré un avis, cette histoire de fair play financier?
Oui, parce que effectivement, j'ai été évidemment extrêmement surpris. Tu vois, je suis tombé de ma chaise, de l'arbre, de mon échelle. Tout le monde, pendant un an, nous a tellement annoncé que le PSG allait avoir la tête coupée. On nous a vendu quasiment jusqu'à l'exclusion des Coupes d'Europe. Que forcément, voir le PSG relaxé, ou avec entre 40 et 60 millions de ventes à faire d'ici fin juin, ça paraît être un cadeau, quoi. Évidemment, je surjoue parce que je savais que le PSG ne serait pas sanctionné, parce qu'il suffisait de se renseigner un petit peu, ce que visiblement n'ont pas fait énormément de nos confrères, pour qui il est plus facile de vendre du papier ou des articles en expliquant que le PSG c'est tout pourri, qu'ils ont triché, qu'ils ont volé, et d'aller chercher les infos auprès de ceux qui en France avaient envie que le PSG soit sanctionné. J'entends par là le président de l'Olympique Lyonnais, qui avec ses amis Porquetebas, Rummenigge et d'autres en Italie, s'était un petit peu ligué pour que le PSG soit sanctionné devant l'UEFA. Finalement, malgré la pression, parce que ceux qui aujourd'hui vont encore rester dans un délire suprême de complot et qui pensent que l'argent du Qatar peut tout acheter... Excusez-moi, mais là, vous êtes quand même au sommet de la bêtise, parce que face à toute l'Europe, et à beaucoup des clubs les plus puissants. Je pense que si l'UEFA n'avait pas été une institution neutre, juste et impartiale, elle n'aurait pas rendu cette décision, mais elle aurait cédé à la pression terrible que mettait l'Espagne, le Bayern, la Juve, et donc Jean-Michel Aulas, puisque lui n'avait décidé de ne pas être solidaire d'un club français qui lui a permis pourtant d'encaisser, qui va lui permettre d'encaisser bientôt un peu plus de droits télé qu'il en avait jusque-là, même s'il l'avait nié pendant longtemps, cette augmentation des droits télé. Donc, à tous ces gens-là, j'adresse un message en forme de « Mais pourquoi vous vous êtes trompé? Pourquoi vous nous avez raconté des bananes pendant un an? Pourquoi vous, mes chers confrères, avez relayé toutes ces bêtises? Pourquoi vous avez carrément souhaité que le PSG se fasse plomber par l'UEFA et son fair-play financier ?» Voilà, je sais pas. Moi, je vais éviter de tomber dans le complot en parlant d'anti-PSG, d'anti-Qatar. Moi, je ne suis ni pro ni anti. J'essaie juste d'être juste et lucide dans tous mes commentaires en me renseignant avant. Quand il faut critiquer le PSG, je suis le premier. Quand il faut être juste et lucide, je suis également le premier. L'important, c'est que tout soit fait à bon escient. Donc voilà. Maintenant, j'espère que, parce qu'ils avaient été très silencieux, les dirigeants du football français, quand le PSG était attaqué de toutes parts, alors qu'ailleurs en Europe, on voit plutôt de la solidarité entre les clubs. J'espère que la Ligue, j'espère que des gens dans le football français vont s'élever pour dire « Bon bah alors les gars, là, il se passe quoi maintenant ?» Vous allez arrêter de nous les casser là, de venir sans arrêt nous taper dessus et tout ça. J'aimerais bien que la Ligue, j'aimerais bien que la présidente de la LFP dise, vous voyez, notre club est dans les clous. Donc, s'il vous plaît, maintenant arrêtez de nous faire chier.
Jérôme, ton avis?
Moi, j'écoute Daniel. C'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, ça montre que le PSG travaille bien de ce côté-là. Donc, ils avaient géré le truc. Alors oui, ça paraît très peu le fait de devoir vendre, c'est ça, hein, de récupérer 60 millions d'euros.
Ça, c'est quand même quelque chose qu'ils doivent faire. Ça, c'est un accord qu'ils ont avec l'UEFA.
On entendait. J'avais suivi.
Il n'y a pas de sanction, mais il y a tout de même un accord entre les deux parties.
60 millions d'euros, voilà. Mais on avait entendu des sommes bien plus importantes. On parlait de 200, 220, 250. Et là, tu te dis déjà, ils pourront pas recruter. Mais par contre, il va falloir vendre et vendre qui? Parce que pour monter à 250 millions ou 200 millions d'euros, même s'il y a des grands joueurs aujourd'hui, avec les salaires qu'ils ont, c'est pas facile de les vendre non plus, quoi. Donc,
ça se voit.
Mais oui, mais ça c'est problématique. Mmh. Ils ont bien travaillé sur le fait de donner des assurances au fair play financier. C'est pour ça qu'ils sont pas sanctionnés. Par contre, après, il faut qu'ils soient encore un peu plus vigilants sur le fait de donner des salaires comme ça à des joueurs qui sont des bons joueurs mais qui sont pas des stars, quoi. Et pour s'en débarrasser par la suite, c'est très compliqué. Donc voilà, maintenant 60 millions d'euros, ils les auront mais tranquillement. Et c'est bon signe pour le foot français, c'est bon signe bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Voilà, moi je suis satisfait de ça. Ça veut dire que le club va continuer à grandir, le Paris Saint-Germain, que ça va pousser les autres derrière. On parlait de locomotive, oui, il faut une bonne locomotive devant pour pousser Marseille, Lyon, Monaco, ces clubs-là à rejoindre l'élite. Donc voilà, pour tout ça, c'est très bien.
Alors sur Marseille, le chiffre de l'amende est de 100 000 euros, donc c'est pas non plus... voilà, 100 000 euros pour un club de foot. Voilà, donc c'est peanuts. Mais il reste quand même sous surveillance, dit-on à l'UEFA, les Marseillais.
Ouais, mais eux, ils sont dans leur projet aussi. Ils grandissent. Ils auraient préféré faire la Ligue des Champions sans aucun doute, mais s'ils se font plaisir comme l'année dernière ça a été le cas avec cette finale, ils vont continuer à engranger de l'argent déjà et puis de la confiance.
Et puis tiens, j'ai Heart of Glass sur le hashtag RMC Live qui nous dit: la décision de l'UEFA pour le PSG prouve que Paris est enfin admis dans le club des grands clubs décideurs. JMA a perdu, dit-il.
Pas faux.
Et Alain, lui, n'est pas d'accord vraisemblablement. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Salut Alain, t'es supporter de qui toi? De Lyon?
Moi je suis supporter, ouais, plutôt de l'OL, mais je suis allé voir jouer Marseille à la finale, tout, j'aime le beau football.
Très bien.
Et surtout pas les magouilles.
Tu es un esthète.
Ouais, voilà.
Alors, t'es d'accord avec Daniel là?
Moi je suis un peu d'accord, on s'attendait à cette décision, en fait. On s'y attendait, parce que ça allait être clément. Parce qu'il y a le financement des Qataris derrière, ils sont pas que au PSG, etc. Même s'il y a des petites bagarres et des
tu vois un petit complot donc.
Non, c'est des petites guerres intestines ou des petits coups de pique qu'on va se faire, mais on sait très bien qu'à terme, le résultat, il est là. Et que ça allait être clément. Quand on leur dit, il faut vendre que pour 60 millions, ben bien sûr qu'ils vont le faire, quoi, je veux dire.
Bon, bah écoute, Non, mais il y a un truc, tu sembles quand même un peu gêné, Alain, si je comprends bien.
Moi je suis déçu.
Gêné
parce
par rapport à quoi?
Je suis gêné parce que par exemple, dans le foot amateur, nous on était en R3, nous demande de préparer des budgets, il faut que tu aies un budget prévisionnel de 100 000 de machin, la moindre truc et la moindre erreur, on te sanctionne et tu montes pas ou tout ça, et là, on est à des niveaux bien supérieurs, on parle de millions d'euros et tout ça, et on est clément, bien plus qu'avec le foot amateur, encore une fois. C'est petit arrangement entre amis, quoi.
Oh. Alors là, Alain, après, il faut qu'on connaisse, on connaît pas les méandres du dossier, déjà, et on ne sait pas, on a pas assisté aux discussions au sein de l'UEFA.
Et puis, il faut arrêter de comparer l'UEFA.
Non, parce qu'il n'y a aucun arrangement. Ouais. Et puis, Alain, quand le foot pro est sanctionné, les millions, c'est à hauteur, hein. Ouais, quand exactement. Le PSG, il y a 2 ans, était sanctionné par le fair play financier, et a vu son recrutement encadré, c'était à hauteur de ce que toi tu prends avec le foot amateur.
Alain, merci en tout cas pour
cette année. Merci Alain, en tout cas.
Alors, 2-3 petites infos, enfin, plein d'infos Coupe du Monde, les gars. J'en ai plein à vous donner d'ici 23h. Après, on attaquera les chapeaux. Alors, je vais commencer par le Mercato Ligue 1, si vous voulez bien, parce qu'il se passe pas mal de petites choses. Je vous le donne comme ça, hein, à la volée. S'il y a un truc qui vous intéresse, vous m'arrêtez. Goebbels signe à Monaco, donc le jeune Lyonnais, qui voulait quitter Lyon.
Au nom étonnant, quand même.
Alors il paraît qu'il faut dire Goebbels.
Bah vaut mieux. Du coup, ça évite de penser forcément. Voilà.
20 millions de transferts et plus un petit pourcentage à la revente pour les
20 millions.
20 millions.
Ouais. Monaco
a payé 20 millions pour ce joueur. Très prometteur, paraît-il.
Ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire avec lui, hein.
Non, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'ils sont pas sûrs.
C'est un pari, quoi.
Ils sont beaucoup, pas sûrs. C'est comme l'Italien qui est arrivé. C'est des paris. Et aujourd'hui, regarde l'Italien.
Il est cher, le pari, 20 millions.
L'Italien, c'était combien l'année dernière?
L'Italien, il a 17.
Ouais. Donc, 17. Et apparemment, les échos que moi j'ai en allant là-bas.
C'est que c'est un souci?
C'est pas génial.
Bah, justement, t'es pas obligé de faire deux paris quand t'en, d'ailleurs, tu...
Ouais, mais après
c'est
leur politique, ça a fonctionné aussi sur d'autres.
Non, mais pour l'instant ils ont plus eu de réussite que d'échecs.
Ouais, ouais. Et puis ils peuvent se permettre avec tout ce qu'ils ont encaissé. Je pense que c'est pas grave de perdre 17 ou 20 millions d'euros. Hein.
Toujours à Monaco, le jeune gardien Nardi, qui paraît-il est très prometteur, a été reprêté.
Le fils de Marie-Ange.
A été reprêté au Cercle Bruges, là, le club filial de Monaco qui est en D1 belge.
Exactement.
Nantes a son nouvel entraîneur, donc le Portugais Miguel Cardoso, il a signé. Donc Kita, il veut plus d'entraîneur français, hein, c'est réglé. Il s'est dit, le dernier c'est Girard, maintenant terminé.
Il y en a beaucoup, hein, il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus.
C'est, après, il y a vouloir des entraîneurs français et pouvoir en prendre, du moins qui correspondent à ce que Kita veut mettre en place. Dire s'il veut la suite de Conceição, un entraîneur. Ben, franchement, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un jeune entraîneur français de ce côté-là. C'est vrai.
Il y a eu quand même une discussion intense avec Gourvennec.
Eh oui, mais Gourvennec, apparemment, si ça s'est pas fait, Gourvennec, par rapport à son staff, il voulait venir avec son staff, Kita voulait pas, c'est que, aussi, il avait des doutes, Kita, parce que s'il a aucun doute sur Gourvennec, tu crois qu'il fait pas l'effort de prendre tout son staff? Ouais. Franchement, ouais. Il fait capoter l'affaire pour 2-3 mecs qui vont venir avec lui.
Le plus grand bien de Cardoso, là.
Bah ouais. Exactement. Donc je pense que sa priorité, ouais, c'était un entraîneur étranger.
Il a pas entraîné
Conceição, il faisait quoi quand
il avait fait Guimarães, tout ça.
Donc ça reste, après j'espère pour Kita que ça se finira pas de la même façon qu'avec Conceição. C'est tout.
Sinon, Saint-Étienne veut garder Debuchy. Vous savez que ils ont fait une proposition de contrat. On propose 3 ans à Debuchy,
c'est logique.
Donc à voir, hein.
Et lui, il est en fin de contrat, là. Lui, il a plus rien du tout là.
Il a plus rien.
Il a aussi 2 clubs anglais qui le suivent. Alors peut-être qu'il.
Bah après ça dépend. Je pense que si signe à Saint-Étienne,
bah oui. Tu as pris la signature si tu es libre, boum.
Ouais, non mais en France, dans tous les cas, tu sais qu'il y a encore plus à Saint-Étienne, il y a des salary cap, parce que je veux dire, tu dépasses pas les sommes dans un petit club anglais. Ça c'est son choix, mais ça s'est tellement bien passé à Saint-Étienne que ça serait pas étonnant qu'il y reste. Bah sportivement, il est revenu à un bon niveau, même on se pose la question.
Il était venu pour se relancer. Donc peut-être comme il voyait ça comme une transition. Ah, oui. Est-ce que rester, ça faisait partie de son plan. Après, qu'il veuille rester, s'il a envie de rester, fait ce qu'il veut. Mais je sais pas si ça faisait partie de son plan.
Après, il y a que lui qui le sait. Mais si c'est en effet juste un tremplin pour se relancer, bah, il signera pas Saint-Étienne parce que là, il mettra l'aspect financier au milieu et n'importe quel club anglais donnera plus que Saint-Étienne.
Petite info RMC Sport du soir, Martial veut quitter Manchester United.
C'est normal.
C'est étonnant, ça. Ouais. C'est étonnant.
Mais bon, il le dit.
Oui. Il le dit. Lui et son agent, là, j'ai même oublié le nom, là, avec qui je m'étais chopé par SMS.
Philippe Lambollet.
Voilà, exactement. J'espère qu'il va lui trouver un club qui correspond à ce qu'il souhaite et surtout qui se remette en selle, du moins avec un meilleur état d'esprit. C'est le problème d'Anthony, s'il est là. Ses qualités, on les connaît, il en a, il les a pas perdues. Mais après, il faut donner envie à l'entraîneur de te faire jouer, montrer du plaisir sur le terrain, que tu t'éclates et tout, et puis s'investir un peu plus, voilà. Mais il faut lui dire les choses. Si tu lui dis pas les choses, il va stagner, il pourra peut-être signer à Tottenham, parce que j'ai entendu des clubs comme ça. Bien sûr qu'en termes de talent, il y a des clubs qui vont tenter le pari, mais s'il arrive avec le même état d'esprit, je peux te dire que c'est voué à l'échec.
Au niveau mercato, sachez aussi que Montpellier a recruté un attaquant serbe, il s'appelle Skuletic, et il vient de Turquie. Donc voilà, il a 27 ans, il a marqué une dizaine de buts en Turquie cette année. Et puis, bras de fer programmé entre l'OM et Pelé, parce que l'OM veut garder Pelé comme deuxième gardien, mais Pelé a une offre de Strasbourg qui va en faire son numéro 1. Donc je dis Zubizarreta, lâche-nous Pelé, il veut pas rester chez toi.
Qu'est-ce que tu veux toi, c'est
pourquoi
un peu
il décide à Strasbourg. Le bras de fer, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que Pelé veut partir, il dit moi j'ai une proposition pour être numéro 1.
Mais comment ils veulent le retenir?
Eh ben oui, ils veulent le retenir.
Non mais c'est incroyable. Alors là, c'est, franchement,
Zubizarreta dit non, tu restes.
Ah non, mais là c'est.
Il a encore un an de contrat. Il a 36 ans le gars.
Ah ouais, non mais là bon, à mon avis ça va se faire, c'est juste des
détails. Sur le timing.
Ouais, le timing quand même, là il est pas prévenu au dernier moment quand même. Il a le temps de.
Après à Marseille on se dit on l'a vu cette année, il a rendu pas mal de services, il est bon.
Mais attention, si Strasbourg lui propose un poste de numéro 1, c'est qu'ils estiment qu'il en a les capacités. Mais bon, c'est quand même bizarre de bloquer Pelé quoi.
Voilà.
Mais Gilbert va débloquer ça, c'est quand même Strasbourg, merde.
Voilà. Et puis, c'est bien Pelé, non? Qu'est-ce que vous en pensez comme numéro 1?
Écoute,
allez-y, rassurez-moi.
Non, mais quoi, tu l'aimes pas ton gardien, là?
Lequel?
Celui que t'as à Strasbourg,
Il se casse, il va à Metz.
Il va en.
Ou Kidja.
Ah oui.
Il va en D2 à Metz. Pourquoi il se casse?
Bah bon, après,
non, mais il y en avait, ils étaient deux au début.
Qui était, oui, le non, jeune Camara, début. Mais le jeune Camara qui a 18 ans, il a pas.
Il faisait un peu peur.
Mais non, mais il y a un gardien qui est pour Strasbourg, là, qui a le nom, là, pour être chez vous, là. Gunther, là.
Gürtner,
c'est un gardien pour vous, ça.
Il a été formé à Strasbourg, il est Amiens. C'est
Amiens pour vous, ça. Bah il a un nom strasbourgeois et tout.
Mec, il est bien.
Il sent la saucisse à plein nez et tout. Il faut le prendre, lui. Mais prenez-le.
Vous avez raté, Jean-Loup Leca.
Non, Leca signe à Lens.
Mais oui. Non, mais vous l'avez rendu.
Mais non, mais faut qu'ils prennent l'Alsacien. Ils aiment bien rester
entre eux. Encore deux, trois petites infos.
Ils sont comme ça. C'est
Inzaghi, nouvel entraîneur de Bologne, Filippo. Et Anigo, à la côte en Grèce. Il était entraîneur d'un club de Levadiakos. Ça s'est bien passé. Là, il a signé à Panionios. Anigo est le nouvel entraîneur de Panionios.
Qui avait sorti Sochaux une année.
Exact.
Là.
Époque Jean-Claude Plessis.
Panionios. Bon, en tout cas, il a raison. La Grèce, c'est un magnifique pays qui reste là-bas.
Dans quelques instants, nous sommes de retour avec l'actu de l'équipe de France. On a une idée de la compo pour le match face à l'Australie. Et il y a pas mal de surprises. On y arrive dans quelques instants.
Pas mal.
Excuse-moi, mais toi qui parles de Didier Deschamps, tu nous as pas tout dit.
On ne savait pas qu'il y avait un qui allait être blessé.
On y revient dans quelques instants dans l'after.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Jérôme Bretagne également, dans un petit quart d'heure, les chapeaux que tout le monde attend. Le basket, je vous signale le score final, Monaco qui bat le Mans 81-77 sur BFM Sport. Vous voyez Daniel Riolo qui a déjà son chapeau.
Je suis déjà prêt, on a tout
chapeau,
le...
Chapeau bleu, blanc, rouge.
Je n'étais pas vu, en fait, il ne va pas si bien que ça.
Non, pas du tout même. Enlève-le, c'est mieux.
On va faire autre chose, on va essayer comme ça.
Alors, deux, trois infos.
Si, ça fait un peu Charles Trenet, ça fait un peu Charles Trenet. Ils ont les équipements et tout.
Attends, c'est pour tout à l'heure.
Arrête, je peux faire un test quand même pour voir si ça marche.
Tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure.
Ouais, ça marche pas,
ouais,
tu vois.
Ça marche pas très bien.
Tu vois, on a bien fait de faire un test.
Deux, trois infos avant l'équipe de France. Au Brésil, innovation, il n'y a pas de capitaine. Il y a un capitanat tournant. C'est ce qu'a dit, expliqué aujourd'hui le sélectionneur. Il dit, il y a plusieurs capitaines qui se relayeront. Mon idée, dit Tite, était de mettre Dani Alves capitaine pour le grand soir, c'est la finale. Mais Dani Alves n'est pas là, donc il va définir un pool de 4 à 5 capitaines qui se relayeront.
Un pool. Écoute, il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de gestion. Attends, j'enlève le chapeau, sinon c'est pas sérieux. De gestion nouvelle qu'on n'envisageait pas il y a quelques années dans le foot. On avait eu le gardien qui joue la Coupe d'Europe et le gardien qui joue le championnat. On avait trouvé ça un petit peu dingue. Il y a la mise en concurrence des gardiens qui continue de surprendre encore pas mal de monde aujourd'hui, alors que finalement, pourquoi ça serait pas une évolution?
On a vu aussi le gardien qui rentre juste pour les pénaux.
Ouais, la mise en concurrence des gardiens. Moi, je quand même. Mais
pourquoi pas après tout? Pourquoi pas?
Non, mais qui le fait vraiment? Il y a pas beaucoup, hein, Daniel. Quand tu regardes,
c'est arrivé.
Ils te disent au départ, ouais, il y a une concurrence, puis après, t'as un numéro un, numéro deux.
Si t'en as un qui s'impose, ok. Mais je veux dire, à la limite, pourquoi ce poste-là ne serait pas ouvert à ça? On dit la tranquillité. Ouais, ok. C'est et là, le capitaine qui tourne. Pourquoi pas? Mais après, c'est comment tu manages. Si les mecs s'y retrouvent dans ce management-là, bah tu diras ça a marché. Et si le mec a pas réussi à manager cette situation-là, bah peut-être ils arrêteront, ils le feront pas. Non, mais faut pas qu'on soit bloqué sur certains modes de fonctionnement.
Non, mais c'est surtout si t'es bloqué, c'est que les gens ne connaissent pas investir. Hein, comment ça vit? Investir sa vie avec souvent 3-4 mecs qui dirigent, du moins qui prennent la parole, et, qui quand il faut se dire les choses, qui sont au départ de réunions, tout comme ça.
Les choses, c'est important dans l'investir.
Exactement. Non, mais
on sait toujours pas quelle chose d'ailleurs.
Plus que quand il y a une crise, c'est ce qu'on dit. On s'est dit les choses.
On va se dire les choses.
Tout va bien maintenant.
Bon, là, est-ce que Trump et Kim Jong-un se sont dit les choses?
Non, mais quand je sais pas, c'est toi qui as mis de Kim Jong-un.
Moi, je crois qu'ils se sont dit les choses.
Quand tu fais des réunions de crise,
à coup de maillot NBA.
La première réunion de crise peut avoir un électrochoc.
En 3 maillots, le mec.
La première réunion de crise peut avoir un électrochoc. Mais alors après, les autres, quand ça commence à deuxième, la troisième et tout, moi, j'ai connu ça. Bon, au bout d'un moment, il y a même plus à se dire les choses, quoi. Ce que je veux dire, on est dans la merde, on est dans la merde. Mais pour reparler des capitaines, bien sûr, t'as toujours 3-4 mecs qui sont des leaders. Et là, Teach.
Ouais. Teach.
Teach. Et il l'a dit ouvertement. Et en fait, c'est qu'une question de brassard. Parce que vous êtes habitué.
Fini, Jérôme, là, on s'en fout des brassards, il y a les chapeaux qui
avoir
nous attendent,
le, mec, là, le tu brassard crois que ça change quoi d'avoir un brassard?
Le brassard du capitaine du Brésil.
Moi, j'ai toujours été capitaine de mes équipes, et forcément, je l'avais pas forcément sur le bras.
Franchement, t'étais le plus beau, t'étais le plus fort, mais les chapeaux, c'est important.
T'étais le leader.
Les brassards. Voilà. À une époque, c'était les bandanas.
T'étais le leader technique, le leader moral, l'âme du club, c'était toi.
Franchement, avec le recul,
le pied gauche de l'équipe, c'était toi.
Les entraîneurs avaient une chance énorme.
Le cerveau de l'équipe, c'était toi. Jérôme.
Mais c'est vrai, mais toi tu rigoles, mais c'est la vérité.
Évidemment qu'ils avaient, mais comme nous on a la chance
c'est
de t'avoir.
Ce que nous a dit Jacques Santini qu'on a vu récemment.
Mais maintenant c'est l'heure des chapeaux, monsieur.
Allez, alors, allez. C'est pas encore l'heure des chapeaux.
Comment ça?
Ah non, il est pas encore
l'heure. Mais on est prêt.
Alors, on est prêt. Ça c'est. À la radio, je sais pas ce que ça donne. Ça doit être infâme. Ah oui. L'équipe de France. L'équipe de France.
Quelle équipe de France? On s'en fout.
Regarde, il est 22h52. T'as encore, mais non 4 minutes là. Mohamed Bouafsi, qui a toutes les infos qui comptent, a assisté à l'entraînement à huis clos. Il est fort, hein, Momo. Et il nous dit la chose suivante. Voilà l'équipe pour la mise en place du jour, qui ressemble à l'équipe pour l'Australie. Latéraux, Pavard et Lucas Hernandez. Donc, ni Sidibé, ni Mendy.
Ouais, ils sont blessés.
Et surtout, pas de Giroud devant.
Ouais.
Alors, peut-être lié aussi au point de suture, là, il peut-être pas jouer tout de suite, hein. En tout cas, on partirait sur devant Griezmann avec Dembélé.
Et Mbappé. Donc, sort de losange, parce que dans ces cas, ou alors Mbappé qui fait le 9. Ça, il y a que Jérôme qui peut nous le dire.
Alors, moi,
c'est le seul habilité. Bah, à nous décrypter.
Écoute, on a vu, c'était contre l'Italie, il me semble, hein, Dembélé, Mbappé et Griezmann derrière. Donc ça va être
ça ressemble à l'Italie effectivement.
Ça va être Giroud joue pas.
Ah oui.
Giroud joue pas et après au milieu de terrain, c'est pas étonnant ce que je veux dire. Moi, j'avais réclamé plus de justesse technique face à un bloc regroupé qui joue bas, qui défend bien dans les duels et tout ça. Ça vient des latéraux mais aussi des milieux de terrain, d'avoir Kanté et Matuidi qui ont d'autres qualités que de la justesse technique, c'est pas la peine d'avoir les deux. t'en as un sur les deux pour récupérer les ballons, et ça Kanté il le fait très bien, et après un peu plus haut Pogba et Tolisso qui a plus de qualité technique que Matuidi, donc c'est pas choquant en tout cas,
ça sera eux de mettre du rythme. Demain la France voyage entre donc son camp de base et la ville de Kazan dans le Tatarstan.
Ouais, c'est pas à côté,
pour le premier match. Alors un mot quand même sur 2026, donc le choix de la FIFA aujourd'hui, le trio États-Unis, Mexique, Canada
comme attendu,
a battu le Maroc. Alors Sainte Communion a 48.
C'est officiel.
Oui, alors bon, c'est officiel. Enfin, c'est en tout cas dans les tuyaux.
C'est Jean Lanfranc.
Et donc
les trois pays
concernés sont déjà automatiquement qualifiés. Déjà, voilà.
Oui, bah logique. Voilà. Si t'organises, si t'as pas ton équipe.
De toute façon, je t'annonce Mexique. Canada. Non,
Mexique
non.
En général, ils sont toujours qualifiés. États-Unis. Là,
c'est trois pays de la CONCACAF. Ça veut dire que derrière, combien de places il y aura pour la CONCACAF?
Ça, j'ai pas les détails.
Parce que là, tu vas te taper avec.
Surtout 48. En plus, ils en ont.
Porto Rico, Costa Rica, ils y sont. De toute façon,
République Dominicaine, Panama,
République Dominicaine. Bref, on va aller à Punta Cana.
Maurice avec Haïti.
Rien que pour ça, ça me ferait plaisir pour Haïti et pour Vagnoloa.
Ah ouais.
Il pourrait rejouer, on sait jamais.
On pourra le faire en direct, l'after de Punta Cana, match de la qualif, République Dominicaine contre Haïti.
Contre Haïti, ouais. Ouais. Bah, after sur
place. Retour. Ouais, mais
attends. Ça serait peut-être l'occasion pour mes îles grenadines de se qualifier si d'ici là j'arrive à être président de la Fédé. S'ils comprennent enfin qu'ils ont
trois infos quand même sur le Maroc.
Je dois diriger tout ça.
Le Maroc en colère, pourquoi? Parce que il y a plein de pays africains qui ont voté pour les États-Unis.
Mais certains disent que...
Alors ça met en colère le Maroc. Il y en a certains, notamment...
Certains qui disent on a voté pour le Maroc, mais ça s'est pas affiché.
Alors ils disent, ouais, mais il y a un problème
soit
de...
Soit il
fallait appuyer, il y avait deux boutons. Il fallait appuyer sur deux boutons. Puis ils disent, ouais, mais alors il y avait un problème de vote électronique, ça n'a pas marché.
Bon, alors après, autre chose.
Les Guinéens, notamment.
Autre chose, toi qui connais bien ce continent...
C'est l'Afrique australe qui a plutôt voté pour les États-Unis.
J'ai vu qu'Alpha, notre ami, avait également réagi là-dessus. Dit, pourquoi... Unanimement, les pays africains devaient voter pour le Qatar.
Non, pourquoi
il devait y avoir une
pour le Maroc.
Oh putain, donc ce soir je bafouille. Pour le Maroc, pourquoi il devait y avoir une unanimité des pays africains? Pourquoi?
Parce que c'est le même continent.
Des pays émancipés. Non, en fait, si t'as pas envie de.
Je suis bien d'accord avec toi, mais historiquement ça se fait comme ça. C'est-à-dire que par exemple quand t'as une nation européenne l'UEFA mobilise tous les autres pour dire votez pour eux. Voilà. Après chacun vote en son âme et conscience. Il y a des considérations parfois géopolitiques.
Donc c'est le fameux effectivement ancien système du copinage qui fait que tu votes pour le pays ami même s'il peut pas organiser le truc. Ouais, bon, bah voilà, oui, après, en l'occurrence, tu votes aussi pour le pays avec lequel tu vas faire
États-Unis,
du business.
Mexique, Canada.
Et là, en l'occurrence, on sait que c'est pour le business que c'était le mieux comme ça.
Ils promettent 10 milliards de revenus, les Américains.
Pensais franchement qu'ils allaient pas aller là-bas.
États-Unis, Mexique, donc, Trump veut construire un mur. Et États-unis Canada, Trump a dit que Trudeau, c'était moins que rien
Pardon, je me fais l'avocat du diable, mais à chaque fois, j'entends parler de ce truc-là.
Attention, tu prends du temps sur les chapeaux.
Non mais cette histoire de Mexique, États-Unis, ça les empêche pas de faire du business. Il fait le mur, c'est pour pas que des mecs. Voilà. Enfin, moi je défends pas l'idée du mur, je m'en fous, mais ça me paraît aberrant qu'on à chaque fois on sorte ces arguments là pour dire il fallait pas qu'ils s'entendent.
Les chapeaux, c'est... messieurs dames.
On découvre le business aujourd'hui avec
c'est
un peu
tout
de cynisme.
De suite dans l'after.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.